Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro aujourd'hui, Hélène Lorty, représentante à l'ONU de l'AILP, Association internationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Bitot, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée, rédacteur en chef de La Raison, mensuel de la libre pensée, et producteur de nos émissions sur France Culture pour parler de l'Europe et des élections européennes. Les élections au Parlement européen auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans toute l'Union européenne. La France métropolitaine votera le 9 juin. Comme à l'accoutumée, la Fédération nationale de la libre pensée, membre de l'Association internationale de la libre pensée, n'entend pas délivrer de consignes de vote ou de non-vote. Elle laisse aux citoyens le droit de se prononcer librement en votant pour qui ils veulent ou de ne pas participer à ce scrutin s'ils jugent cette instance hautement contestable, ce qui est tout à fait légitime. Christophe, existe-t-il un idéal européen de la libre pensée ?
Eh bien, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il existe un idéal européen de la libre pensée. Et cet idéal, il a été exprimé par le grand libre penseur et avant tout, bien sûr, le grand poète Victor Hugo, dans son discours d'ouverture au Congrès de la paix du 21 août 1849, je cite « Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France.
Eh bien Christophe, nous sommes bien loin de cet idéal avec l'Union européenne.
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement un euphémisme même. Pour bien comprendre ce qu'est l'Union européenne, je pense qu'il faut se replacer dans le contexte historique. Le contexte historique, c'est que l'Union européenne est le produit de la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle se fonde, je dirais juridiquement, sur le principe de subsidiarité vaticane que nous développerons plus abondamment ultérieurement et absolument pas sur la démocratie et ce, au détriment des nations libres et souveraines. C'est-à-dire que le pouvoir de décision ne réside absolument pas dans le Parlement européen, ce fameux Parlement européen dont justement on nous appelle à voter pour lui, mais plutôt pour le Conseil européen. Et le Conseil européen, ses membres, ce sont les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Le point commun de tous ces personnages, c'est que aucun n'a été élu. Il n'y a pas délégation ou représentation, mais subsidiarité dont nous reparlerons également tout à l'heure. Mon ami, le regretté Alexandre Hébert, anarcho-syndicaliste et libre penseur, avait cette formule cavalière, mais assez explicite, je décide, tu exécutes.
Et alors, qu'est-ce que précisément ce principe de subsidiarité que vous évoquez ?
Alors, comme je l'ai dit, le Conseil européen décide et le Parlement européen exécute. Maintenant, revenons de nouveau à l'histoire pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le principe de subsidiarité a été défini dans une encyclique pontificale qui s'appelle « Quadragesimo Annuo », formulé en 1931. 1931, d'ailleurs, c'est la pleine expansion des fascismes, mais ce n'est pas un hasard. Cette encyclique a été rédigée pour le 40e anniversaire de la première encyclique sociale de Léon XIII, qui s'appelait Rerum Novarum, et qui définissait, je dirais, la doctrine sociale de l'Église. Ce principe a été défini par son auteur de la manière suivante, je cite de nouveau, « que l'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule peut les remplir. Ces fonctions sont dirigées, surveillées, stimuler, contenir, selon que le comportement et les circonstances ou la nécessité l'exigeront. » Ça peut se résumer, je dirais, à une phrase, ne jamais confier à un organisme de rang inférieur, supérieur, ce qui peut être fait par un organisme de rang inférieur. Alors, nos éditeurs pourront dire que c'est finalement quelque chose d'assez logique, mais pour bien comprendre, il faut là encore revenir à l'histoire, décidément nous faisons un peu un cours d'histoire aujourd'hui. À quel moment en France ce principe de subsidiarité a-t-il été réellement appliqué? Eh bien c'est sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire sous la monarchie absolue, sous la monarchie de pouvoir divin. Et à ce moment-là, les pouvoirs de l'État se réduisaient au seul pouvoir régalien. Les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire la police, l'armée, la justice, les tribunaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui dans un langage plus moderne l'appareil de répression. L'Église, quant à elle, justement, Église subsidiaire, corps intermédiaire, s'occupait de la charité et de la bienfaisance. On va dire d'un semblant d'éducation et d'un semblant de santé. La récolte de l'impôt, quant à elle, était confiée aux fermiers généraux, qui d'ailleurs se sucraient, pour prendre une expression triviale, largement au passage. Donc je dirais que lorsque le Conseil européen, par ses directives, ordonne, parce que c'est effectivement des ordres, aux États membres de privatiser les services publics, c'est, notamment en France, mettre à mal la République et les acquis de la Grande Révolution française de 1789, c'est mettre à mal un principe très important pour la France, l'égalité de droit des citoyens.
Mais est-ce que le fédéralisme européen n'est-il pas un gage de démocratie quand même ?
C'est ce que d'aucuns voudraient nous faire croire, pour nous emmener aux urnes justement. On nous présente l'Union européenne comme les États-Unis d'Europe. Vous savez, les fameux États-Unis d'Europe dont on a parlé, cher à Victor Hugo, tout à l'heure. Or, l'Union européenne ne fonctionne pas sur le principe du confédéralisme, qui seul pourrait peut-être, j'y viens peut-être, assurer une véritable égalité des pays et des peuples, mais justement, comme vous l'avez précisé, sur celui du fédéralisme. Or, le fédéralisme, c'est tout à fait autre chose. Le fédéralisme, lui, il verrouille toute volonté libre par une autorité qui impose, et absolument pas qui propose, au libre choix des peuples et à la libre décision de leurs représentants élus. Et c'est bien ce fameux Conseil européen, encore et toujours, qui remplit ce rôle. On reconnaît là la doctrine corporatiste chrétienne que j'ai essayé de définir.
Alors, il est souvent reproché à la libre pensée, on parle souvent de l'Europe vaticane. N'est-ce pas quelque peu caricatural, exagéré ?
Certains peuvent le penser, mais là encore, je pense que le mieux, c'est de se rapporter à la fois à l'histoire et à des faits précis. L'histoire d'abord. En 1952, notamment sous l'impulsion de Robert Schuman, ministre MRP des Affaires étrangères, alors le MRP, rappelez-vous, c'est loin maintenant, c'était le Mouvement Républicain Populaire, le premier parti démocrate chrétien en France, et de Jean Monnet, s'est formée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a été, il faut bien le dire, le moule de l'Europe des Six, puis de l'Union européenne, c'est-à-dire de tout ce qu'on a connu par la suite. Or, Robert Schuman est un catholique militant. Vous me direz, c'est son droit. Mais je suis tout à fait d'accord. Là où le bât blesse, peut-être, c'est que, de son aveu même, c'est en qualité de catholique militant qu'il vota avec enthousiasme les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, en estimant qu'il fallait, je le cite, qu'il fallait rendre les armes. Étant ministre de Vichy, il fut logiquement frappé d'indignité nationale à la Libération, et il devra à Charles de Gaulle, ça peut paraître un paradoxe pour certains, son blanchiment et son retour en politique. Alors, pour la petite histoire et pour amuser un petit peu nos auditeurs, il faut savoir qu'à l'époque, On appelait le MRP également mouvement de recyclage des pétainistes. C'était assez parlant.
Cocasse.
Quant à Jean Monnet, on sait maintenant, et ça c'est basé je dirais sur des travaux historiques sérieux, que c'était un agent américain partisan de l'effacement des nations dans l'Union européenne. Alors, si la communauté européenne de charbon et de l'acier dont on a parlé, c'est vrai, peut occuper des questions religieuses. En revanche, elle a implanté durablement la démocratie chrétienne et ses hommes dans les institutions européennes. Le dirigeant socialiste SFIO Vincent Auriol déclarait dans une formule assez cocasse « L'Église a fait la triple alliance, Adenauer, Schuman, Gasperi, trois tonsures sous la même calotte. »
Alors, ce dont vous parlez, c'est l'histoire. Mais peut-être que depuis, le rôle de la démocratie chrétienne s'est amoindri.
On peut le penser là encore, mais je m'appuyais sur deux choses pour essayer de démonter cet argument. D'abord les symboles et ensuite des faits bien précis. Les symboles tout d'abord. Les symboles de l'Union européenne sont directement hérités de ce que j'appellerais le Saint-Empire romain germanique. Le Grand Prix de la construction européenne s'appelle le Prix Charlemagne. C'est tout un programme et ça n'est certainement pas un hasard. Et quoi d'étonnant à ce moment-là, à ce que parmi ces récipiendaires, on compte vraiment une flopée de dignitaires démocrates chrétiens. Je citerai Coudenhoff, Kalergi, Gasperi, Monnet, alors pas le peintre, hein, bien entendu, le politicien, Adenauer, Schuman, mais aussi, pour faire bonne mesure, dirais-je, Juan Carlos de Bourbon, usurpateur du pouvoir monarchique dans l'État espagnol, et plus proche de nous, il faut bien un peu d'actualité, le pape François. Prenons également un symbole que nous avons l'habitude de voir quasiment tous les jours quand nous nous promenons dans la rue, parce qu'il pavoise tous les établissements publics, c'est le drapeau européen. Eh bien, le drapeau européen, peu de gens le savent, de l'aveu même de son concepteur, qui n'était autre que le peintre Arsène Heitz, dans ses mémoires, il explique qu'il s'est inspiré du drapeau marial. Effectivement, 12 étoiles jaunes sur fond d'azur, c'est le symbole marial, tout simplement. Alors, quelques-uns pourront dire que ce ne sont que des symboles. Outre le fait que personnellement j'accorde beaucoup d'importance aux symboles, je vais maintenant m'appuyer également sur des faits concrets, et là indiscutables. Quand les Hollandais et les Français ont refusé le projet de constitution européenne, vous en souvenez certainement, le fameux traité de Lisbonne, il n'y a pas si longtemps. Eh bien, les exécutifs européanistes ont passé outre et ont fait ratifier la dite constitution par leur parlement godillot. Vous conviendrez qu'il s'agit là d'un exemple particulier de démocratie. La constitution européenne, deuxième fait, la constitution européenne a, dans son article 37C, intégré toutes les relations qui existent entre les églises et les États des différents pays membres de l'Union européenne. Ça veut dire que maintenant, ces relations, elles sont, je dirais, figées dans le marbre. On va prendre un exemple très simple pour éclairer notre propos. Si la France voulait, aujourd'hui, en finir, alors je pense que c'est un peu de la politique fiction, hein, mais imaginons que la France voudrait aujourd'hui en finir avec le statut clérical d'exception en Alsace-Moselle et étendre la laïcité à tout le territoire de la République, eh bien il faudrait. Il faudrait pour ce faire qu'on obtienne l'unanimité des États membres. Alors quand on est, il n'y a pas besoin d'être expert en géopolitique pour savoir quand même que la grande majorité des gouvernements sont assez réactionnaires et cléricaux en Europe, et donc c'est assez peu certain qu'on obtienne une telle majorité.
En effet.
Dernier exemple concret, il y a eu en 2013 une déclaration commune entre l'Union européenne et l'Organisation de la coopération islamique pour condamner le blasphème des religions. On pouvait lire dans ce texte « Nous croyons en l'importance de respecter tous les prophètes, quelle qu'en soit la religion à laquelle ils appartiennent. » Alors, rappelons d'abord qu'un grand nombre d'États composant l'Union européenne répriment déjà pénalement ce qu'ils appellent le délit de blasphème. Rappelons également, décidément, c'est un vrai cours d'histoire aujourd'hui, mais rappelons également que Le blasphème, c'est un terme moyenâgeux. C'est un terme moyenâgeux qui consistait à protéger les dogmes et les interdits contre toute critique et, je dirais même, contre toute ironie, d'une certaine façon. Donc, il s'agit incontestablement d'une atteinte essentielle aux libertés de conscience et de pensée et d'expression auxquelles la libre pensée est particulièrement attachée.
Dans ces conditions, quelles sont les revendications de la libre pensée alors ?
Eh bien, nos revendications, elles ne sont pas, comme certains, dirigées vers une soi-disant Europe laïque. Nous allons rentrer effectivement en campagne européenne et on va entendre beaucoup de candidats qui vont nous proposer une Europe laïque. Pour la libre pensée, c'est un leurre. C'est une illusion parce que l'Union européenne a été, on a essayé de le démontrer, je ne sais pas si on y a réussi, mais on a essayé de le démontrer, a été constituée justement pour s'opposer à une telle Europe laïque. Donc, plus modestement, la libre pensée revendique un combat pour la laïcité en Europe, c'est-à-dire pour défendre tous les acquis laïques qui peuvent exister, et particulièrement en France, où ils sont assez nombreux, mais il y a également le Portugal qui a adopté la laïcité et d'autres, et puis obtenir la séparation des églises et des États partout où c'est possible.
Alors, nonobstant cette analyse fort critique, nous avons précisé au début de cette émission que la Fédération nationale de la libre pensée, membre de l'Association internationale de la libre pensée, n'entend pas délivrer de consignes de vote ou de non-vote à l'occasion des élections européennes.
Absolument, nous ne sommes pas un parti politique et ce sera mon mot de conclusion. Notre rôle, c'est plutôt d'apporter notre contribution au débat, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, de nous efforcer d'éclairer modestement, je dirais, à notre juste place, les citoyens qui agiront ensuite librement, en toute conscience.
Eh bien, merci Christophe. Notre émission arrive à son terme. Il ne me reste plus qu'à remercier mon invité, donc Christophe Vito, Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Dalia à la technique et Claire Poinsignon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à La Raison via le site fnlp.fr et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.